Vous savez que ça fait 4 ou 5, je crois que c'est la 6e que je fais, étude, exhortation, édification sur ce sujet qui revient très 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 souvent dans la parole de Dieu, à savoir la crainte de l'Éternel. La preuve que ça correspond à un besoin, c'est que plusieurs chrétiens sont sortis et sont croyants depuis des années, ils m'ont dit « on n'a jamais réfléchi à ce sujet ». On croyait que d'aimer Dieu, ça suffisait. Et c'est ce qui explique, hélas, pourquoi beaucoup de croyants ont rétrogradé, c'est qu'ils aimaient Dieu, mais ils n'avaient pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça s'apprend pas par les chants. La crainte de Dieu, ça s'est enseigné par un enseignement biblique sérieux et profond. David dira, enseigne-moi la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toute une disposition de cœur. Je m'applique, c'est pas en faisant les choses n'importe comment, c'est en ayant une application. On l'a lu à plusieurs reprises, on ne va pas reprendre tous les textes, mais il dit si tu es attentif, si tu inclines ton cœur, si tu t'appliques, si tu écoutes, si tu recherches ce trésor, si tu la recherches comme un trésor, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Il faut la comprendre, non pas avec l'intelligence, il faut la comprendre avec le cœur. La preuve, c'est que même pour le salut, même pour obtenir le salut, il faut même au préalable qu'il y ait cette crainte. Regardez avec moi dans les Actes au chapitre 13, en cherchant avec ma concordance tous les textes sur la crainte, je me suis rendu compte que même la parole de Dieu n'est envoyée que lorsqu'il y a la crainte. Regardez. Acte 13, verset 26, c'est vrai que la parole de Dieu est prêchée à toutes les nations, et il faut que toutes les nations entendent la parole, mais ne se convertissent que ceux qui ont le respect de Dieu. Peut-être qu'avant votre conversion, vous aviez quand même le respect des choses de Dieu, non? Il y en a qui, avant la conversion, ils allaient à l'église, ils n'allaient pas à l'église, de temps en temps ils blasphémaient, mais quand même, dans le plus profond du cœur, il y avait quand même cette appréhension, voyez? Acte 13, 26. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous, regardez bien, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Parce qu'il y avait le respect des choses de Dieu, Dieu leur a envoyé sa parole. Vous le voyez comme moi? Vous l'avez lu avec moi ce verset? Voyez, il y avait dans leur cœur, au préalable, un respect. Et Dieu leur a envoyé le salut. Vous le voyez comme moi, hein? C'est comme ça que vous le voyez. C'est un sujet qui doit être expliqué, réexpliqué. Prendre des textes bibliques pour que nous comprenions que la bénédiction de Dieu, Dieu la donne, mais le réveil, la façon dont Dieu peut marcher dans une église, ça ne peut commencer qu'avec le commencement. Et le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement. On va le voir. On va d'abord lire un texte où on voit le peuple de Dieu qui est tout le temps en train de poser des questions au Seigneur, tout le temps en train de se plaindre, de gémir. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, mais ils s'autorisent à parler n'importe comment au Seigneur. C'est dans le prophète Malachie, s'il vous plaît. Il faudrait le lire en entier. Sincèrement, d'ailleurs vous pouvez le faire chez vous. Rien ne vous empêche de lire ce prophète et de regarder comment ils ont parlé et comment Dieu va leur répondre. Malachie chapitre 1er. Dieu est obligé d'utiliser ce prophète pour les cadrer, pour les ramener à la crainte. Pour les ramener à la crainte. Vous y êtes, Malachie chapitre 1er, verset 2. Dieu commence avec ce qu'il dit toujours. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime toujours? Et regardez la réaction. « Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ?» Vous avez vu? Mais il y a des gens comme ça aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y en a pas aujourd'hui? « Oui, si Dieu m'aimait, je ne serais pas... » C'est pas vrai? Ça, ce n'est pas de la crainte. C'est tout sauf de la crainte. Regardez au verset 8, 6. « Un homme honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte? » Vous voyez, la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, sacrificateur qui méprisait mon nom et qui dit « En quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites « En quoi t'avons-nous profané? » C'est en disant « La table de l'Éternel » et méprisable. » Verset 13 du chapitre 2. « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut plus rien à gré de vos mains. Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu as été infidèle. Verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué ? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Ou bien, c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice ? Vous voyez les chrétiens, ouais, si Dieu était juste, il ne me serait pas arrivé ça. Je peux vous dire que c'est bien la preuve que les gens n'ont pas la crainte de Dieu quand on ose s'autoriser à poser des questions comme ça à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Alors ça, là, bien sûr, que ce qui préoccupe Dieu, c'est la dîme et les offrandes, mais ça peut être un autre problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas que ça. Ça peut être tout un tas de problèmes qui font obstacle à la bénédiction. Mais là, à l'occurrence, c'était la dîme. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux, regardez bien ce qui est écrit, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Et au verset 2 du chapitre 4, il aurait fallu tout lire, mais en fait c'est bien déjà ce qu'on a lu. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. » Dieu les a interpellés. Ils s'autorisaient à parler mal, à dire « Oui, si Dieu ceci, à quoi ça sert de servir Dieu ? Et est-ce que Dieu nous aime ? Est-ce que Dieu est juste ?» Et Dieu était obligé de leur dire « Mais attendez !» Est-ce que vous vous rendez compte le manque de respect ? Alors au bout d'un moment, ils réagissent et ils disent, bon, ça ne peut pas durer, ce n'est pas sérieux, on n'a pas été sérieux devant Dieu. Et il y a dans le cœur de certains ce respect. Donc ils se parlent entre eux, il y en a qui ont dit, oh non, écoute, ça ne sert à rien. Et d'autres qui ont dit, non, si le Seigneur nous reprend, c'est que ça ne va pas. Et ceux qui craignent Dieu se retrouvent et ils commencent à prendre les choses au sérieux. Cet après-midi, dans ce lieu, où parmi tous ceux qui écouteront cette prédication par le biais du net, il y a ceux qui craignent Dieu, et il y a ceux qui font leur propre volonté. Voilà. Il y a ceux qui voient Dieu à leur façon, Dieu à leur manière, et puis il y a ceux vraiment qui ont le respect des choses de Dieu. Et dans ce texte où Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui est juste et celui qui est injuste, le juste c'est celui qui a la crainte de Dieu, le méchant c'est celui qui il croit en Dieu mais il n'a pas de communion avec Dieu, il fait ce qu'il veut, aller au culte, j'y vais si j'ai envie. Vous voyez, il n'y a pas de communion, ce n'est pas Dieu qui dirige, c'est lui qui dirige sa propre vie. C'est à cela qu'on reconnaît quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Est-ce que vous aimeriez de nouveau que dans le monde, les gens voient la différence entre une église qui a la crainte de Dieu et une église qui n'a pas la crainte de Dieu ? Ça peut se faire. Hein ? Ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend pas de Dieu. Vous savez que Dieu, il n'est pressé que d'une chose, que de bénir, que de sauver, que de libérer, que de manifester sa gloire. Et s'il y a un problème, ça ne vient pas de Dieu. S'il y a un problème, ça vient de l'église. Un chrétien, il écoute la parole. Il la comprend ou il ne la comprend pas. quand un cœur est dur, il écoute, il peut écouter avec son intelligence et même dire, tiens, tout ce que le pasteur a dit, c'est vrai, c'est biblique, c'est bien expliqué ou pas, c'est bien. Mais enfin, on peut arriver à un moment où on peut dire, c'est biblique. Mais ce n'est pas ça comprendre la parole de Dieu. Comprendre, c'est vraiment la saisir. Et quand un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, c'est que cet homme a le cœur dur. Je ne parle pas de la compréhension intellectuelle, même pas de la compréhension émotionnelle, je parle de quelque chose de vraiment spirituel. Il y a, cet après-midi, que vous le vouliez ou non, parmi nous, des gens qui ont la crainte de Dieu et des gens qui ne l'ont pas. Et vous allez savoir, normalement, si vous écoutez sérieusement jusqu'à la fin, si vous êtes sérieux avec Dieu, si vous avez la crainte de Dieu. Nous ne nous rendons pas compte de la bénédiction qui viendrait sur les églises si tout à nouveau la crainte de Dieu revenait dans les assemblées. L'église primitive baignait dans la crainte. La crainte s'emparait de chacun. Il y avait beaucoup de joie. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'on a la crainte qu'on n'a pas la joie. Au contraire. La crainte de Dieu où il n'y a pas la joie, c'est le légalisme. Il faut faire ci, il faut faire là. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Ça, c'est la peur. Mais le respect de Dieu, ça donne de l'assurance à quelqu'un. Quand un homme respecte Dieu, il n'a pas peur. Il est plein d'assurance et plein de joie. Il n'est pas dit ceux qui aiment Dieu, il est dit ceux qui craignent Dieu. On réagit. Parce que la crainte, c'est le respect de la parole de Dieu. Et si nous savions les conséquences de ne pas avoir la crainte de Dieu, je pense que nous réagirions très, très, très sérieusement. Vous avez lu le livre de Job ? Le livre de Job commence comment ? Il y avait un homme de Durancaldé qui craignait Dieu. Hein? Un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous croyez que la crainte de Dieu qui était dans le cœur de Job, ça a payé pour l'histoire de l'Église ? La preuve, on en parle. Des milliers de gens, des millions de gens, des siècles, de générations ont été bénis par le livre de Job. La crainte, ça paye. Joseph, il avait la crainte de Dieu. Est-ce que ça a payé ? Vous ne croyez pas que ça portait du fruit ? Et si l'Église retrouvait la crainte de Dieu, le respect de Dieu, laissez-moi vous dire qu'il y aurait du fruit dans les Églises. Marcher avec Dieu, c'est un privilège. Marcher avec Dieu, c'est une bénédiction. Et un chrétien, il doit marcher avec Dieu. À quoi reconnaît-on un chrétien qui marche avec Dieu ? Vous savez, l'image que Jésus a donnée pour marcher avec lui, c'est l'image du joug. Jésus a dit, venez à moi, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, prenez mon joug sur vous et vous trouverez le repos car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous avez déjà vu ce joug, c'est une pièce de bois qui unit deux bêtes ensemble. Pourquoi ? Pour qu'elles travaillent. Le joug, c'est le symbole de l'unité. On est unis avec le Seigneur et on travaille. Le joug représente deux choses, l'unité et le service. Quelqu'un qui est sous le joug du Seigneur, il ne peut pas faire autrement que d'être uni avec lui, la palisse l'aurait dit, et il ne peut pas faire autrement que de servir. Et si un chrétien ne sert pas Dieu, avec toutes les explications qu'il voudra trouver, ça c'est son affaire, c'est qu'il n'est pas sous le joug du Seigneur. Car laissez-moi vous dire que si vous êtes à côté du Seigneur, je doute fort que vous ne le serviez pas avec lui. Vous ne croyez pas ? Si vous êtes attelé au Seigneur de l'univers, je pense qu'il doit vous amener dans les œuvres qu'il a préparées. Non ? Et c'est pour ça que c'est... Et ça, c'est la crainte. Je reçois ces instructions. C'est ce que nous allons partager cet après-midi. Donc, c'est sérieux. C'est sérieux. On va lire surtout un verset qui va nous servir d'appui cet après-midi. Dans le psaume 25, il y a... quelque chose qui caractérise celui qui a la crainte de Dieu. C'est une très très grande bénédiction. Regardez avec moi, psaume 25. Vous avez déjà certainement lu ce verset, mais dans le cadre où nous le partageons, ça va s'éclairer davantage évidemment. Psaume 25, verset 12. Psaume 25, verset 12e. Vous y êtes ? C'est une question. C'est Dieu qui la pose. Vous savez, vous saurez si vous l'avez la crainte. Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Vous voyez, le repos toujours, toujours la crainte. Sa postérité possédera le pays. Mais regardez maintenant la conséquence. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir la crainte ? Vous vous rendez compte? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Est-ce que ça ne devrait pas être le désir de tous les chrétiens, ça? Quel est votre plus grand désir? Ne répondez pas, mais je veux dire à vous-même. Aujourd'hui, quel est votre plus grand désir? Les gens ne calculent, les chrétiens souvent ne calculent pas dans le cadre du plan de Dieu, des projets de Dieu. Les chrétiens calculent pour eux. Les Hébreux dans le désert, ils ne s'intéressaient pas au programme de Dieu, au plan de Dieu, aux lois de Dieu. Ils s'intéressaient aux concombres, au lait et au miel, aux figuiers, aux grenadiers. Mais le plan de Dieu, ça ne les intéressait pas. Il y en avait un qui était intéressé par le plan de Dieu, c'était Moïse. On y reviendra pour conclure. Mais voilà à quoi on reconnaît quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Bien sûr, merci Seigneur pour les bénédictions. Mais Seigneur, ce qui est important, c'est ton plan. Voyez, l'amitié de Dieu, les secrets de Dieu sont révélés dans une autre version à ceux qui le craignent. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pour nous placer sur la terre, là, paf, un moment, et puis après nous reprendre? Dieu nous a créés pour que nous découvrions son plan, son alliance, ses voies, sa personnalité. Est-ce que c'est important pour vous de le connaître? Ou est-ce que non, c'est pas grave si je ne le connais pas, sachez qu'il me bénisse. Et ouais, des chrétiens en sont là, beaucoup de chrétiens en sont là. Donc, on est dans les psaumes, juste après, Proverbe 1:7, le roi Salomon, qui a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur Dieu, explique comment ça commence. C'est pour ça que c'est un sujet qui devrait être partagé dans les églises. Il y a des chrétiens qui m'ont dit, je n'ai jamais réfléchi à ce sujet, alors que ça devrait être le commencement, la preuve. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Vous avez vu avec moi? Alors, à quoi Salomon fait-il allusion? Est-ce que Salomon parle des scientifiques? Dites-moi, est-ce que les scientifiques ont la crainte de Dieu? Certains l'ont. Mais est-ce que d'après vous, Salomon parle des hommes qui font la science? Non, pas du tout. Beaucoup de scientifiques n'ont aucune crainte de Dieu. Est-ce que Salomon fait allusion à la connaissance des Écritures? Alors, les pharisiens, est-ce qu'ils connaissaient les Écritures? Est-ce qu'ils la connaissaient bien? Est-ce qu'ils les connaissaient bien, les Écritures? Par cœur. Par cœur. Qu'est-ce qu'ils ont fini par faire, les pharisiens? Par crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'ils étaient agréables à Dieu? Non. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec la science, ça n'a rien à voir avec la connaissance des Écritures. Ce n'est pas parce qu'on connaît les Écritures qu'on a la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église, qu'on lit la Bible, qu'on prend la Sainte-Cène, qu'on chante et qu'on connaît la Bible par cœur. Je vous dis, les pharisiens le faisaient, ça. Ce n'est pas pour ça qu'on a la crainte de Dieu. On va voir vraiment ce que c'est la crainte de Dieu. En tous les cas, c'est le commencement. Et c'est un choix qu'on doit faire. Du temps de Malachie, certains ont dit, bon, choisis la crainte. D'ailleurs, regardez dans ce même chapitre, lorsque Dieu leur parle, alors bien sûr, ils n'ont pas écouté, ils ont réécouté. Alors Dieu leur dit ceci, regardez au verset 28. Alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science, regardez bien, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas aimé mes conseils. Ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Ils n'ont pas voulu le conseil de Dieu, eh bien ils choisissent leur conseil. Quand on dit à une jeune fille, ne vous mariez pas avec un inconverti, ça ne peut pas marcher, Dieu n'est pas d'accord. Oh si, écoutez, je le changerai, il se convertira. Mariez-vous. Mais les gens préfèrent leur conseil au conseil de Dieu. Ils ne choisissent pas la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, de suite il dit, ouh, si Dieu le dit, c'est important, donc je le fais pas. Voyez, c'est exactement ça. Dieu leur a parlé de mille et une manières, car Dieu il sait parler, croyez-moi, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens ils n'écoutent pas. Et cet après-midi, que vous le vouliez ou non, moi avec, nous choisissons, oui ou non, la crainte de l'Éternel. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Cette semaine, j'ai été aiguillé à aller voir une personne et j'ai vu que cette personne avait la crainte de Dieu. Parce que le Seigneur m'a donné la pensée pour cette femme. Et ce n'était pas possible que je sache. Cette femme, c'est incroyable combien Dieu m'a montré qu'elle avait la crainte de Dieu. Et Dieu m'a donné sa pensée pour qu'elle puisse savoir ce qu'elle devait faire. Et ça correspond bien à ce qu'on est en train de partager. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Comprendre la crainte de l'Éternel. Il faut là qu'on y est dans les proverbes. Regardez, verset 2, chapitre 2, verset 5. Il y a toute une attitude de cœur. Il y a plein de verbes différents les uns des autres. De recevoir, de garder, de tendre l'oreille, d'incliner, d'appeler. Et verset 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on connaît la Bible qu'on connaît Dieu. Croyez-moi, vous connaissez le président de la République ? Vous le connaissez ? Est-ce que vous avez déjà discuté avec lui ? Vous voyez ? C'est la même chose. Beaucoup de chrétiens sont avec Dieu comme nous le sommes avec le président de la République. On connaît ses idées, on connaît ses programmes, on connaît ses objectifs. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais enfin, si vous écoutez de temps en temps les informations, vous connaissez le programme du président de la République. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes en communion avec lui. Vous le croiseriez dans la rue, il ne vous saluerait même pas, parce qu'il ne vous connaît pas. Mais pourtant, vous pouvez dire que vous le connaissez. Eh bien, c'est pareil pour beaucoup de croyants. Ils disent qu'ils connaissent Dieu, mais quand vous discutez avec eux, dans leurs propos, leur légèreté, leurs blagues à deux balles, vous savez, vous voyez bien qu'ils ne connaissent pas Dieu. Je crois que quelqu'un qui connaît Dieu, il a beaucoup de respect pour les choses du Seigneur. Il ne s'autorise pas à blaguer avec la Bible. Quand on a la crainte de Dieu, je crois qu'on est très respectueux. Et si Dieu utilise ce terme, la crainte de Dieu, Job, t'as vu mon serviteur Job, comment il est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. La crainte, c'est quelque chose de profondément sérieux, c'est le commencement. Quand quelqu'un va se baptiser, on devrait lui dire, est-ce que vous avez travaillé dans la Bible le sujet de la crainte de l'Éternel. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont aucune crainte. Ils rentrent dans des églises avec le chewing-gum, habillés des fois n'importe comment. Vous allez me dire, il ne faut pas regarder à ça. Mais c'est vrai. Mais moi, je crois que quand on a rendez-vous avec le Seigneur, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas vous. Je crois qu'on fait attention. On ne parle pas pendant que le pasteur prêche. Il y a des églises, pendant que le pasteur prêche, les gens, ils discutent, ils bavardent. S'ils ne sont pas d'accord, ils le disent ouvertement pendant que le pasteur prêche. Moi, je pense qu'il y a bien des endroits où il y a longtemps qu'il n'y a plus la crainte du Seigneur, croyez-moi. Et on pourrait multiplier les exemples. De toute façon, quand vous discutez avec quelqu'un, pour peu que vous ayez un peu d'expérience, vous savez si oui ou non la personne a la crainte de Dieu. Comment pouvons-nous connaître la pensée de Dieu ? Si nous ne le craignons pas, on l'a lu, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Voulez-vous une relation d'amitié avec le Seigneur ? Est-ce que c'est important pour vous ? Est-ce que mais non, ça m'est égal, moi ça j'ai qu'il me bénisse. Mais il y en a beaucoup, s'ils étaient honnêtes, c'est ceux qui diraient. Ce matin, on me parlait d'un garçon qui a eu un accident très grave, un chrétien. Et depuis qu'il a eu cet accident, il s'est éloigné de Dieu parce qu'il n'a pas accepté l'épreuve. Alors qu'il devrait, au contraire, s'en approcher un peu plus, d'avoir été gardé, même si ça s'est très très mal passé. Mais voyez, ce garçon n'a pas été d'accord, Dieu ne l'a pas protégé comme il voulait, Dieu ne m'a pas béni comme j'aurais voulu qu'il me bénisse, donc ce Dieu-là, il ne me convient pas, je m'éloigne de lui. Ce n'est pas la crainte de Dieu, ça. Voyez, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qu'il soit dans une grande bénédiction ou dans une grande épreuve, il reste attaché à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est grave. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec la parole de Dieu. Donc ce verset nous dit qu'on ne peut avoir une véritable amitié avec Dieu que si on a la crainte. Et vous comprenez pourquoi c'est le commencement ? Parce que c'est ce que Dieu veut. Alors dans la Bible, est-ce que vous connaissez des personnes à qui Dieu a dit qu'elles étaient leurs amies ? Daniel, par exemple, est-ce que vous pensez que c'était un bien-aimé du Seigneur ? Alors, ce n'est pas écrit ami, mais il y a des personnes qui avaient une relation. Noé, est-ce que ce n'était pas un ami du Seigneur ? Mais Dieu n'en parle que de deux avec qui il a appelé ami. Pourquoi ? Parce que dans ces deux personnes, il y a un enseignement que nous devons découvrir. C'est ce qui est important pour nous. Mais bien sûr que Dieu a eu plus de deux amis par rapport à la parole de Dieu. Le premier, c'est vrai, c'est Abraham. Alors, Abraham, vous le savez, a fait une alliance avec Dieu. C'est un homme qui croyait, il obéissait, parce que croire, c'est obéir dans la Bible. Les démons, ils croient, et ils tremblent. Mais ça fait pas pour, c'est pas pour autant qu'ils obéissent à Dieu, au contraire, ils ont bien désobéi. Abraham a fait une alliance avec Dieu, il a fait plusieurs belles expériences, il a fait aussi des erreurs. Il a payé cher, mais il s'est ressaisi. Vous en faites des erreurs parfois ? Bon, il faut savoir se ressaisir, hélas, oui. Mais il a été éprouvé. Si vous allez dans la Genèse au chapitre 22, vous verrez qu'il a été éprouvé et que Dieu va lui demander un certain sacrifice, et pas le moindre. Vous savez que Dieu peut vous éprouver, que Dieu vous a déjà éprouvé, oui ou non ? Dieu vous a déjà éprouvé et il se pourrait que Dieu continue pour nous purifier davantage à nous éprouver. Donc, dans la Genèse au chapitre 22, je ne sais pas s'il avait conçu comme une épreuve, mais c'était une épreuve. Genèse 22, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Voilà. Il le mit à l'épreuve. Oui, il faut accepter les épreuves. Dieu vous éprouvera dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail. Dieu peut nous éprouver dans l'église. Est-ce que Dieu peut nous éprouver dans une église ? Ben oui, par rapport à une épreuve, par rapport à une autre. Nous, il y a 2 ans et demi, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion, nous avons été éprouvés par rapport à une situation. Et voilà, et on s'en est bien sortis. Beaucoup, il y en a une dizaine qui ont mal réagi, mais dans l'ensemble, tout le monde a très bien réagi. Et c'était une épreuve que Dieu a permis. Mais sur le moment, personne n'aurait dit, tiens, Dieu nous éprouve, Dieu nous éprouve. Vous voyez, mais moi je savais au fond de mon cœur que c'était une épreuve. Si vous voulez des explications, vous me les demanderez tout à l'heure. Abraham, donc, est éprouvé, Dieu lui demande de lui offrir son fils. Son fils, tu me fous. Il aurait pu dire, voyez aujourd'hui, ah ben justement, il y a Ismaël, ça tombe bien. Ça tombe bien, Seigneur. Il y a Ismaël, ça a été une erreur, voilà. Voyez, alors je le dis à ma façon, mais combien aujourd'hui négocierait ? Abraham a été éprouvé, Dieu lui a demandé son fils qu'il a entendu toute sa vie, qu'il a surtout attendu 25 ans après avoir reçu la promesse, et Dieu lui demande de lui offrir son fils. Et il obéit de suite. Il est dit, regardez ce qui est écrit. Abraham, verset 3, Abraham se leva de bon matin. Le lendemain matin, il n'en a pas parlé à sa femme, je pense qu'il a bien fait, parce que je ne sais pas si la discussion aurait pas traîné un moment, mais il n'en a parlé à personne, il a obéi, et c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi Abraham est devenu l'ami de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on le voit, même les pasteurs, il faudrait, si Dieu me demande de partir demain, est-ce que je vais dire, ben, Seigneur, donne-moi 6 mois, il faut que je réfléchisse, tu sais, Seigneur, moi, je suis très réfléchi. Si Dieu me dit, demain, tu t'en vas là-bas, il faut que je dise oui, de suite. Vous êtes d'accord ? Oui, bon, c'est bien. Quand Dieu nous parle, c'est toujours clair. Quand Dieu nous parle, c'est toujours clair. Oui ou non ? C'est nous qui avons les capacités extraordinaires de rendre les choses très floues pour que ça tourne à notre avantage. Il y a des gens pour qui la volonté de Dieu est très, très floue. C'est eux qui font le fondu, là, le macro, vous savez. C'est eux qui le font exprès pour s'autoriser à désobéir. C'est pas la peine d'essayer. Moi, je suis bien placé pour savoir combien des gens, combien de pécheurs entendent « repentez-vous et convertissez-vous ». Ils savent ce qu'ils doivent faire. Si Dieu leur dit ça, et Dieu ne va pas leur parler en chinois, ils savent très bien Dieu comment nous parler, oui ou non. Et ils font semblant de ne pas comprendre. Mais ce n'est pas la crainte de Dieu. Ils préfèrent leur propre conseil. Quand Dieu dit à quelqu'un « convertis-toi pour ne pas aller en enfer », je veux dire, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses plus claires. Voyez ? Et c'est pareil pour les chrétiens. Quand le Seigneur nous demande d'aller demander pardon, quand Dieu nous demande de mettre notre vie en règle, il n'y a pas besoin de 36 000 explications. C'est pour ça que là, comme partout, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous éprouve, il n'y a que 2 solutions. Ou on désobéit, ou alors on rompt l'alliance qu'il a faite avec nous. Il s'agissait d'une épreuve, une vraie épreuve. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Dieu lui demande de se séparer de quelque chose qu'il lui avait donné. Est-ce que ça peut arriver aussi pour nous ? Que Dieu nous demande de renoncer à certaines choses. Quand je vous disais dans le cadre des annonces que beaucoup de chrétiens ont pris le baptême sans se convertir, parce qu'on ne leur a pas appris le renoncement. Alors que c'est le départ. La crainte de l'Éternel, c'est le départ du succès. Mais le renoncement, c'est le départ de la vie chrétienne. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et c'est dans tous les évangiles. Un chrétien, lorsqu'il se repent, il embraye avec la conversion, il doit renoncer à lui-même. Seigneur, je renoncerai. Et je disais, le béaba, mais il y a beaucoup de chrétiens, le mardi soir, quand il faut choisir entre la réunion de prière et le match de foot, c'est choisi. C'est déjà choisi. Quand il faut choisir entre la réunion de prière et autre chose, c'est choisi. Et c'est Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris les chrétiens à renoncer à eux-mêmes. Et c'est une condition qu'on appelle sine qua non pour avancer avec Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce. Alors, comment voulez-vous que certains chrétiens, après 5 ans de conversion, puissent renoncer, puisqu'on ne leur a pas enseigné le renoncement? Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez? C'est pour ça aujourd'hui qu'on a du mal à mettre des gens au service, à la consécration. Les gens n'écoutent que leurs propres conseils, ceux qu'ils se donnent, bien sûr les meilleurs, mais parce qu'ils n'ont pas appris le renoncement. Alors que Dieu veut justement nous enseigner le renoncement. Vous voyez, Abraham, pourtant c'était quelqu'un, Abraham, il aurait pu négocier un peu. Non, il ne calcule pas, il obéit. Et la question, il faut que nous nous la posions vraiment. Est-ce que nous avons appris à renoncer à nous-mêmes? C'est une question sérieuse. On parlait du commencement de la sagesse pour le succès, mais le commencement de la vie chrétienne, il est là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. Voilà. Qui c'est qui me disait hier? Un frère me disait, dans l'église... Ah oui, ça y est, je sais qui c'est. Un frère me disait, dans l'église où je suis, tous les gens qui ont pris le baptême ont abandonné en 6 mois. Tous. Pourquoi? Est-ce qu'ils aimaient Dieu quand ils se sont repentis? Mais oui, c'est clair, quand on prend le baptême, normalement, j'espère qu'il y a un peu d'affection pour Dieu. Mais ils ne se sont pas convertis. Et c'est pour ça qu'ils ont abandonné. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu pour les retenir serrés dans la présence de Dieu. Vous voyez? Alors, Abraham, lui, aimait Dieu, mais il craignait Dieu. La preuve. Genèse 22, verset 12. « Regardez comment l'ange de l'Éternel parle à Abraham. » Parce qu'il faut comprendre pourquoi Dieu a appelé Abraham son ami. Regardez avec moi. Genèse 22, verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant... Comment vous avez dans votre Bible? Comment vous avez? Je sais maintenant... Il n'est pas dit que tu aimes Dieu. Dieu, il l'aimait. Mais je vous dis, c'est pas parce que vous aimez Dieu que vous allez obéir à Dieu. Il faut le comprendre, ça. Mais quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il obéit. Il ne peut pas faire autrement. Je sais, mais franchement, est-ce qu'il aurait pu être écrit « Je sais maintenant que vraiment tu aimes Dieu » Ben oui, ça tient debout, mais ça va beaucoup plus loin. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Et regardez combien la crainte est la preuve de l'obéissance. Au verset 17, « Je te bénirai ». Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et dans cette histoire, nous voyons que l'amour d'Abraham était un amour qui était rempli de crainte, donc d'obéissance. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que lorsque cette affaire s'est passée, Dieu s'est révélé à Abraham. Comme Jéhovah Jireh, depuis Adam et Ève jusqu'à lui, jamais on ne voit ce nom de Dieu apparaître dans l'Écriture. Il se révèle à Abraham comme Jéhovah Jireh. Voyez bien que l'amitié de l'Éternel, elle est pour ceux qui le craignent. Dieu se révèle comme ce Dieu qui pourvoit. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu sait que Dieu va pourvoir. Il le sait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'amitié de l'Éternel. Je sais, j'ai la crainte de son nom. J'obéis, il s'appelle Jéhovah Jireh. Dieu s'est révélé à lui. Oui, l'amitié de l'Éternel, elle est pour ceux qui le craignent. Voyez comment c'est important d'avoir la crainte. C'est vrai que Dieu peut vous demander quelque chose de difficile. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu pourrait vous demander quelque chose de difficile? Ouais, bon, vous pourrez le faire. Tout ce que Dieu vous demandera, vous pourrez le faire. Vous entendez? Je me souviens de cette fois où je prêchais sur Moïse, justement, qui a tout perdu pour aller dans le désert et tout. Et en prêchant, moi j'ai dit comme ça, est-ce que vous seriez prêt à partir au bout du monde avec 5 valises? Et moi je dis oui. Et ma femme, au fond, elle m'a regardé. Quand on est arrivé à la maison, elle me dit, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu te rends plus compte de ce que tu dis quand tu prêches? Elle me dit, Gérard, c'est grave. Tu sais ce que tu as dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? que tu étais prêt à partir au bout du monde avec 5 valises. Mais je dis, mais je le pense. Et 2 ou 3 mois après, on a reçu une invitation pour aller faire un camp d'ado à Rayatea, donc de l'autre côté du monde. Et on a reçu un appel pour partir. Et 1 an après, on partait avec nos 5 valises à Tahiti. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on dit quelque chose. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et moi, c'est bien vécu le fait d'y aller. Après, ça a été autre chose. Mais je veux dire, mes frères et sœurs, est-ce que Dieu peut nous éprouver? Est-ce que vous acceptez que Dieu vous éprouve? De toute façon, ce n'est pas grave. Si vous n'acceptez pas, il vous éprouvera quand même. Mais vous savez, on peut chanter des beaux cantiques. Ce matin, on a chanté Majesté. C'est un cantique qui exprime vraiment la souveraineté de Dieu sur notre vie. Mais est-ce que vous pensez que c'est en chantant des cantiques sur la crainte qu'on apprendra la crainte? Non. On apprendra la crainte en acceptant d'être éprouvé et en acceptant d'obéir lorsqu'on est éprouvé. En tous les cas, c'est là, regardez avec moi dans Jacques au chapitre 2, c'est là que c'est écrit. C'est là que c'est écrit que Abraham est devenu l'ami de Dieu. Jacques chapitre 2, verset 21. C'est important. Aujourd'hui, vous savez, dans les écoles du dimanche, on a des petits cantiques, Jésus est mon ami, tout ça. Je ne sais pas si on fait bien d'enseigner aux enfants ça. Parce qu'on n'est pas ami de Dieu, parce qu'on chante des petites ritournelles là aux enfants. Croyez-moi. Jacques chapitre 2, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. C'est là que Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Il a passé le test, Dieu lui dit fais ça, il le fait, il craint Dieu, il le fait. Et c'est là mes frères et sœurs où il faut que nous nous arrêtions. Est-ce que vraiment nous voulons voir l'œuvre de Dieu se faire? Des fois dans nos réunions de prière, on prie, Seigneur fais ci, fais ça, manifeste ta gloire, sauve des âmes. Et il faut continuer à prier ainsi, parce que c'est quand même normal de prier dans ce sens. Mais si on n'a pas la crainte de Dieu, le Seigneur il peut nous taper sur l'épaule et nous dire, mais arrête de prier. Arrête de prier. Et commence à m'obéir. Est-ce qu'il pourrait le faire ça? Ben oui. On prie, il y a des gens qui prient depuis 10 ans, 15 ans. Seigneur, sauve des âmes. Mais c'est sûr qu'on... Mais par contre, Dieu est d'accord avec ça. Dieu est d'accord. Mais si elle interdit dans l'église, si les gens vivent dans le péché, vous croyez que Dieu va venir? La crainte s'emparait de tous les chrétiens dans l'église primitive. Il y avait ce saint respect des choses de Dieu. Aujourd'hui, je vous dis, les gens, ils font comme ils veulent. Dieu a dit ça, oui, d'accord, mais on est en 2000 ans, en 2000 ans. Et voilà, comment de suite on fait pour manquer de la crainte de Dieu? Il a appelé Abraham son ami. Oui, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Il faut apprendre à obéir. Vous aimez obéir? Le matin, vous aimez quand le réveil sonne, là, de bonne heure? Est-ce que vous aimez faire votre culte personnel? Il y a des chrétiens qui n'aiment pas. Ils n'arrivent pas à se lever. Ils préfèrent le lit. Ils ne peuvent pas renoncer au lit. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de lui offrir un petit moment avant d'aller au travail? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu attend? Dites-moi. Est-ce que j'exagère là-dedans? Ben non. Il y a des chrétiens, moi, qui me disent, j'arrive pas. Eh bien, arrivez-y. La crainte de Dieu vous amènera à avoir de la joie de le faire. C'est inévitable. Oui, ce n'est pas parce qu'on chante des cantiques qu'on a la crainte du Seigneur. Alors c'est vrai que beaucoup de croyants se demandent, mais pourquoi les églises sont superficielles? Pourquoi il n'y a pas de profondeur? Pourquoi même aujourd'hui on arrête les réunions de prière? Pourquoi il ne se passe presque plus rien? Eh bien à cause de ça, parce qu'il n'y a pas la crainte du Seigneur. Et quelqu'un qui a cette crainte, il va être touché par la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas la connaissance des Écritures, c'est la connaissance de Dieu. C'est bien de connaître le Dieu, l'histoire de David et de Goliath, mais c'est mieux de connaître le Dieu de David et de Goliath. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça que je voudrais vous expliquer. Moïse parlait avec l'Éternel face à face comme un homme parle avec son ami. Vous vous rendez compte? Parce que Moïse, il est intéressé par le plan de Dieu, je le répète, alors que les Hébreux n'étaient pas intéressés par le plan de Dieu. Je termine avec cette pensée lors du dernier souper, du dernier repas que Jésus a fait avec ses disciples, avec les 11. Judas est parti, il se retrouve avec les 11. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Venez avec moi dans Jean au chapitre 15. Alors là, c'est vraiment pour nous. Jean chapitre 15, Dieu a parlé, bon, on n'a pas le temps de parler de Moïse, mais regardez Jean chapitre 15. Jésus va mourir, il passe un dernier moment avec les apôtres, ils ont beaucoup appris, jusque-là ça a été leur serviteur, il se révèle davantage à lui, et regardez ce qu'il fait, ou plutôt ce qu'il dit. Jean 15, verset 11. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. » Alors, commencez dans votre Bible. « Si vous faites ce que je vous commande. » Voilà, le Seigneur se révèle, il ne les appelle plus serviteurs, il le dit un peu plus haut, il les appelle ses amis, et comprenons donc, il est en train de leur révéler tout ce qu'il va faire. Mais on n'est pas amis du Seigneur parce qu'on va à l'église, parce qu'on chante des cantiques, parce qu'on croit en Jésus. Là, il y a une condition, elle est claire, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et c'est là qu'aujourd'hui qu'on voit ceux qui ont eu cette amitié avec le Seigneur, cette approche de Dieu, on le voit quand on discute avec eux. « Oh, vous avez vu ce qui se passe. Oh, vous croyez que l'euro, ça va chuter l'euro, non ? Oh, l'euro. » Mais moi, je vais vous dire, vous connaissez les prophéties ? Vous savez qu'il y aura un dictateur mondial, oui ou non ? Et ça passe par quoi ? Par l'Empire romain qui est reconstitué. Il faut que ça passe par là. C'est hier ou avant-hier qu'ils ont parlé d'un ministre des Finances européen. Mais il faut que ça passe par là. Les prophéties vont passer par là. Et Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, redressez votre tête. Et en quoi on reconnaît un chrétien qui a la crainte de Dieu devant ces choses? Il n'est pas affolé, il ne court pas dans tous les sens. Qu'est-ce qui va arriver? Chrétien, il est dans la paix. Je vous ai tout annoncé à l'avance. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Et rien qu'avec le contenu des évangiles, on devrait vivre dans la paix. Je ne parle pas des épîtres. Mais rien que les évangiles devraient permettre à un chrétien de dire, Seigneur, tes prophéties s'accomplissent, tu vas bientôt revenir nous chercher, que ton nom soit béni. Quand vous verrez ces choses, redressez vos têtes, car votre délivrance approche. Et on pourrait multiplier toutes les paroles du Seigneur Jésus qui font que celui qui est rempli de crainte de Dieu, il n'a pas peur. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous n'avez pas peur. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous êtes rempli d'assurance. Quand le jugement allait tomber sur Sodome et Gomorre, qu'est-ce que Dieu a dit ? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Il a voulu en parler avec lui. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a prié, Seigneur sauve. Il a pu faire une prière que seuls ses amis peuvent faire. Et s'il en reste que 45, Seigneur, tu vas pas détruire une ville s'il reste 45 justes. Non, je ne la détruirai pas s'il reste 45 justes. Seigneur, j'ai parlé trop vite, moi qui ne suis que poudre et cendre, mais s'il en reste 30, Seigneur, tu vas pas juger la ville s'il en reste que 30. Non, Abraham, je ne détruirai pas la ville s'il en reste que 30. Oh, Seigneur, pardon, etc. Il continue. Il n'y a que un chrétien qui n'a pas la crainte de Dieu ne peut pas faire cette prière, ça ne sera pas sérieux. Mais Abraham, il connaît Dieu. Et il va prier et Dieu va faire en sorte que Lot soit épargné. Dieu voulait épargner Lot. Abraham représente les chrétiens qui ont une véritable amitié avec Dieu. Lot représente les chrétiens charnels. Ils sont dans la ville de Sodome, ils sont en train de blaguer avec les gendres et ils ne se rendent pas compte que le jugement va tomber dans 24 heures. Quand ils parlaient avec les gendres ont cru qu'ils plaisantaient. Oui, c'est ça, les chrétiens charnels, on blague, on rigole, mais on ne réalise pas que le jugement de Dieu va venir. Et heureusement qu'il y a des chrétiens spirituels qui prient pour que les chrétiens charnels soient sauvés in extremis quand le jugement de Dieu va tomber. C'est pour ça, les chrétiens qui aimaient Dieu, priez pour que les chrétiens charnels soient aspirés en dehors du jugement de Dieu. C'est important ça, mes frères et sœurs. Voyez, mais voilà, il y a les chrétiens qui sont amis de Dieu, ils connaissent la parole, ils connaissent les prophéties, ils ont compris que le jugement allait venir. On voit des fois des chrétiens, Seigneur, fais qu'il y ait la paix sur la terre. Écoutez, moi quand je lis l'Apocalypse, j'ai lu que la paix, elle va être enlevée de la terre. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Alors prier pour qu'il y ait la paix sur la terre, c'est aller à l'encontre du plan de Dieu. Par contre, que nous ayons la paix, ça c'est biblique. Et heureux l'homme qui se couche en paix, qui a la paix de Dieu dans son cœur. Mais mes frères et sœurs, on ne veut pas de Dieu. Il n'y aura pas la paix sur la terre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà, et il faudrait étudier l'Apocalypse pour comprendre un peu mieux ces choses. Voilà, ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Vous choisirez, non pas parce que vous avez assisté à une prédication de plus, vous choisirez la crainte ou vous ne la choisirez pas. C'est un choix pour être l'ami du Seigneur. Vous aimeriez être ami du Seigneur ? Eh bien, appliquons-nous, mes frères et sœurs. Appliquons-nous. Ce sont des choses sérieuses. Si Dieu vous a placé dans une église, appliquez-vous dans cette église. Aimez la prière, aimez le service, aimez et faites ce que le Seigneur vous demande.